La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, le Christ, notre frère. Amen. Bienvenue à vous toutes et tous ce matin dans ce lieu pour partager ce moment dans cette communauté où nous pouvons librement réfléchir à nos vies et à la relation que ces vies entretiennent avec Dieu. Bienvenue à toute personne qui viendrait pour la première fois au culte dominical ici à l'Oratoire du Louvre. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent par le biais d'Internet et qui sont ce matin avec nous, même s'ils sont loin géographiquement. Dimanche dernier, notre ami le pasteur Bruno Godelet nous introduisait dans le culte par ces mots « Bienvenue donc à toutes et tous » pour se souvenir et rendre grâce à Dieu pour la réformation de l'Église qui n'est pas une œuvre du passé, mais une dynamique permanente stimulée par Dieu qui est esprit. Aujourd'hui, dans cette même dynamique de réformation, nous voulons donner un temps et un espace spirituel à un thème particulièrement important dans toute famille humaine, c'est-à-dire la question du deuil. La question de toutes ces pertes qui jalonnent parfois nos vies. Ce n'est pas très réformé, me direz-vous. Je répondrai que c'est surtout l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui nous guident dans cette démarche. Car si la réforme a aboli tous les rites visant à obtenir le salut des âmes qui nous est acquise par grâce, elle n'a pas interdit de se soutenir et se consoler au moment de l'affliction. Il est donc extrêmement important d'avoir le temps de réfléchir à cette question et de ne pas l'évacuer de nos préoccupations. Nous allons donc lire aujourd'hui le nom de personnes qui sont liées à la communauté de l'Oratoire. Nous croyons que lire le nom de ces défunts, c'est faire mémoire de la trace qu'ils laissent dans nos vies et rendre grâce pour les liens qui nous unissent par-delà la mort à eux. C'est dire notre reconnaissance pour la vie que Dieu suscite éternellement. Nous nous réunissons dans la communion fraternelle pour commencer ce temps de culte, avec le premier spontané que vous trouvez dans les psautiers français. Vous avez toute la liturgie pour les personnes nouvelles au début du psautier français et vous pouvez donc chanter les réponds avec toute la communauté. Je vous invite à vous lever. Et merci à Aurélien Peter ce matin d'être avec nous à l'orgue. Nous louons le Seigneur avec ce psaume universellement connu sans doute. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée des jours. Je vous invite à poursuivre notre louange avec le cantique 95B, les strophes 1, 2 et 3, réjouissez-vous au Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Le Seigneur nous rappelle cette loi simple et si difficile à vivre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que cette parole conduise nos vies, nos actes et nos pensées dans ce monde tel qu'il est, avec celles et ceux que le Seigneur nous donne comme prochains. Nous nous présentons devant Dieu avec ces paroles du prophète Ésaïe. Nous sommes depuis longtemps comme ceux que tu ne gouvernes pas, Éternel, et sur qui ton nom n'est pas proclamé. Ah, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Je vous invite à vous lever pour accueillir cette grâce que Dieu renouvelle. Toujours dans le prophète Ésaïe, quand les montagnes s'éloigneraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne chancellera pas. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. Je vous invite à confesser ensemble notre foi avec ces mots que je vous propose ce matin. Nous croyons en toi, Dieu de la vie. Tu es à nos côtés jusque dans les jours sombres du deuil. Tu ouvres un horizon quand tout semble perdu et tu nous dis « Lève-toi et va vers toi-même ». Nous croyons en toi, Dieu de la vie. Tu entends la plainte et le manque de l'être aimé. Tu soutiens et tu libères des liens de l'absence. Et tu nous dis, chaque matin, sème ta semence. Nous croyons en toi, Dieu de la vie. Tu connais la solitude et tu reprends tous les regrets. Tu consoles et tu encourages à vivre pleinement l'aujourd'hui. Et tu nous dis, choisis la vie afin que tu vives. Nous croyons en toi, Dieu de la vie. Tu donnes ta parole dans le silence laissé par l'être aimé. Tu envoies les messagers de ton amour pour transformer la peine en tendresse. Et tu nous dis, ma bonté pour toi ne faiblira pas. Nous croyons en toi, Dieu de la vie. Tu peuples nos déserts de sœurs et de frères capables d'aimer. Tu inspires les liens d'amitié qui aident à vivre le présent. Et tu nous dis, tu es mon enfant bien-aimé. En toi j'ai mis ma joie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Aujourd'hui, j'ai choisi de lire avec vous un des passages de toutes les aventures de David dans la Bible. Et dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, au chapitre 1, il est question de la mort de Saül, le premier roi d'Israël, qui avait la réputation d'être devenu petit à petit fou. C'est ce que l'on dit en tout cas dans la Bible. et qui va mourir sur un champ de bataille en demandant la mort à un jeune homme qui va donc faire ce que Saül lui dit. Il est question donc de deuil, un des deuils que David aura à traverser. Et il est aussi question du deuil de Jonathan. Jonathan, l'ami de toujours de David et surtout l'ami amoureux de David, puisque dans plusieurs scènes de la Bible, nous trouvons cette relation particulière entre David et Jonathan qui s'aimait énormément et sans doute le texte ici le confirme encore. Il y a donc un jeune Amalécite sur le champ de bataille qui a donné la mort à Saül et qui porte la nouvelle à David. Le jeune homme lui dit, le jeune homme qui lui faisait ce rapport répondit, « Je me trouvais justement sur la montagne de Gilboa. Saül s'appuyait sur sa lance et voici que les chars et les cavaliers le serraient de près. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici, et il me dit, qui es-tu ? Je lui répondis, je suis Amalécite. Il dit, arrête-toi donc près de moi et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je me suis arrêté près de lui et je lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai pris le diadème qui était sur sa tête et la chaînette qu'il avait au bras et je les apporte ici à mon Seigneur. » David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils firent une cérémonie funèbre, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de son fils Jonathan, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël qui était tombée par l'épée. Et là, David va entonner une complainte sur Saül et Jonathan. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champs riches en offrandes, car c'est là qu'ils ont connu l'abjection, les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, sans être frotté d'huile, dans le sang des blessés, dans la graisse des héros, l'arc de Jonathan ne reculait pas et l'épée de Saül ne retournait pas à vide. Saül et Jonathan, aimés, chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que des aigles, ils étaient plus forts que des lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saül. Vous qui vous revêtait de magnifiquement de cramoisi, qui mettait une parure d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il été transpercé sur tes hauts lieux? Je suis dans la détresse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu m'étais si cher. Ton amour était plus merveilleux encore que l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment les armes de guerre sont-elles perdues? Je vous invite à continuer cette méditation en chantant le cantique 372, les strophes 1 et 2. Reste avec nous, Seigneur. Prions ensemble. Éternel, dans cette Bible offerte à la lecture de tous par la Réforme protestante, nous venons de lire les mots qui ont inspiré la foi de ceux qui ont édifié nos communautés. Donne-nous aujourd'hui cet esprit qui interroge les mots écrits dans la Bible. Donne-nous la même liberté que celle qui a animé les artisans de la Réforme et garde-nous des certitudes qui ont pu parfois les éloigner de toi. Amen. Sans doute ce matin, beaucoup ici ont en tête l'affirmation selon laquelle les réformés n'entretiennent aucun culte des morts. Mais dire cela est un peu court et pourrait laisser penser que la sobriété avec laquelle nous rendons grâce à Dieu pour la vie de celles et ceux qui nous ont quittés et l'absence de solennité dans notre temps liturgique réservé aux défunts confinent à l'indifférence pour la question du deuil. Mais il n'en est rien, bien sûr. Et les cultes d'action de grâce sont sans doute ceux auxquels les pasteurs portent le souci le plus grand dans leur ministère, parce qu'ils combinent à la fois des moments d'écoute, d'accompagnement, d'accueil et de création de paroles et de gestes dont la justesse ne souffre aucun à peu près pour être accordé à chaque situation de vie et chaque situation de deuil. Comme il n'y a pas une vie qui soit semblable à une autre, il ne devrait jamais y avoir aucun rite d'obsèques semblable à un autre. La question n'est donc pas de savoir si les réformés négligent les défunts ou non, mais plutôt de savoir quelle pratique est justifié pour quelle utilité dans le cas du deuil. Dans son Institution de la religion chrétienne, le réformateur Jean Calvin écrit sur la coutume de prier pour les morts en ces termes. Quand ils objectent que la coutume de prier pour les morts a été reçue dans l'Église depuis plus de 13 siècles, je leur demanderai en retour selon quelle parole de Dieu, à partir de quelle révélation et suivant l'exemple de qui cela a été fait. Car non seulement il n'y a aucun témoignage dans l'Écriture, mais on n'y trouve aucun exemple de croyants le faisant. L'Écriture raconte souvent, et avec quelle intensité, que les croyants ont pleuré la mort de leurs parents et comment ils les ont ensevelis. Mais qu'ils aient prié pour eux, il n'en est pas question. Le personnage de David est à cet égard exemplaire pour la multiplicité des situations de deuil qu'il doit vivre, sans jamais prier pour le défunt une fois qu'il est décédé. En effet, David perd plusieurs de ses fils et il a à chaque fois des réactions différentes et parfois déroutantes. Mais il ne prie pas Dieu pour le fils qu'il perd. Quand il perd Absalom, il crie son nom de façon déchirante, jusqu'à agacer son entourage qui trouve qu'il en fait trop. Et quand il apprend la mort du premier fils né de son union avec Bathsabée, il a cette réaction étonnante. David se leva de terre et se lava, se parfuma et changea de vêtements. Puis il allait dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent « Que signifie ce que tu fais ? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi ?» Et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » David consola Bathsabée, sa femme. Dans ce passage, on voit très clairement que David ne demande rien à Dieu concernant l'enfant défunt, et cela ne retire pourtant rien à sa peine d'homme et de père. Le réformateur Jean Calvin ne nie pas que la souffrance existe dans le deuil et il écrit « Je réponds que la pratique de prier pour les morts a pour origine un sentiment humain suscité par la recherche d'une atténuation de la douleur. Il semblait inhumain de ne témoigner aucun signe d'amour envers les morts. Nous expérimentons tous combien notre nature est encline à éprouver cela. » Ce qui est montré du doigt par Calvin et tous les réformateurs avec lui, c'est l'utilisation de la douleur de la perte d'un proche pour faire croire des choses qui n'ont aucun fondement dans le témoignage de foi qu'est la Bible, mais qui en plus maintiennent les personnes les plus crédules sous l'emprise d'une institution comme l'Église. Il pense bien sûr à l'invention du purgatoire dont il écrit de nombreuses pages dans l'institution et qui permettait à l'Église d'organiser ce qu'il appelle les vilains trafics qu'ils font à propos des âmes, profitant ainsi de l'ignorance des gens. Mais alors, quelle est la juste place du religieux dans le deuil? Est-ce de proposer une échappée vers des paradis imaginaires propres à rassurer les survivants que nous sommes sur la nouvelle situation de nos proches défunts? J'ai entendu des prédications qui visaient à dire que, enfin, le défunt avait trouvé la paix dans l'éternité et que la vie après la mort était bien plus belle puisqu'elle se déroulait dans le royaume des cieux. À l'écoute d'une telle théorie, on se demandait pourquoi tout le monde n'avait pas envie de mourir tout de suite pour trouver la béatitude impossible à trouver ici-bas. Et l'on comprenait mal pourquoi les messes allaient être données dans les mois qui suivaient pour le repos de l'âme du défunt, puisqu'il était annoncé qu'il l'avait déjà trouvé. J'accepte volontiers qu'il y ait parfois des mystères, mais de telles contradictions semblent impossibles à soutenir et ne console pas vraiment. Le Dieu de Jésus-Christ n'est-il pas un Dieu de la vie? Comment le repos dans la mort pourrait-il être préférable à une vie où il y a eu de l'amour, de l'amitié, l'œuvre du travail quotidien et les pensées élaborées avec intelligence chaque jour? Et si la vie éternelle ne commence qu'après la mort, alors quelle place a la parole de Dieu au milieu de la réalité de nos vies humaines et mortelles? On rétorquera que cette espérance de la vie éternelle nous est acquise dans la mort et la résurrection de Jésus le Christ, et que c'est par sa mort que nous savons que la même résurrection nous attend après notre propre mort. Mais alors, Jésus est mort crucifié pour rien ? La crucifixion de Jésus ne fut-elle pas d'abord un scandale qui accuse la cruauté humaine et nous en défend, de manière à ce que nous comprenions enfin combien la vie d'un être humain est précieuse et combien c'est dans la vie que nous devons être. En sa résurrection, n'est-elle pas cette résurrection ce que Dieu donne en partage à tous les témoins de Jésus qui ont pu voir en eux la vie de leur ami, de leur frère, de leur amour, suscitée à nouveau dans son intensité toute particulière? Ce n'est pas à un mort que nous rendons gloire, ce n'est pas un mort que nous célébrons le jour de Pâques, mais la vie suscitée à nouveau malgré la mort, malgré la violence, malgré une humanité qui n'a pas respecté le prix d'une vie. Une vie restée gravée dans la paume de Dieu, une vie dont l'empreinte dans le cœur de celles et ceux qui l'avaient côtoyée était tellement profonde qu'elle a suscité les récits les plus variés pour dire la richesse non pas de cette mort, mais de cette existence vécue dans ce monde. Alors, si nous ne prions pas pour les morts, puisque la grâce de Dieu leur est acquise et qu'il n'y a pas à marchander avec Dieu pour qu'il les aime et les bénisse, que devons-nous faire pour nos défunts? Sans doute ne pas laisser la trace qu'ils ont laissée sur la terre s'effacer sans qu'on s'en souvienne, même si nous savons que Dieu, lui, n'oublie jamais aucun de ses enfants. Peut-être objectera-t-on que parfois la trace laissée est tellement difficile à garder, à regarder, tellement horrible même dans certains deuils, qu'il vaudrait mieux ne pas les susciter de nouveau dans nos mémoires. En effet, toutes les vies ne sont pas admirables. Mais faire cela, c'est décréter la mort éternelle, la mort maudite, celle que l'on sanctionne comme maudite. Alors qui sommes-nous pour juger et choisir celui dont on doit se souvenir ou non? Et puis en ne réhabilitant pas symboliquement toute vie dans l'humanité, ne risquerions-nous pas de voir surgir des fantômes dont l'évocation pourrait susciter plus de curiosité que nécessaire et hanter le présent? Là aussi, il est besoin de mots pour dire l'inexplicable. Chaque vie a sans doute ses ténèbres, mais toutes sont de notre humanité en Dieu, quand bien même elles auraient refusé de vivre humainement. Dans le texte que nous avons lu ce matin, David honore Saül, qui pourtant avait voulu le tuer. Et pourtant, il honore en même temps qu'il honore Jonathan, son ami, ce roi devenu fou. Il honore à la fois celui qui lui voulait du mal et celui qui l'aimait infiniment, sans doute son amour. Et comment s'y prend-il? Il entonne une complainte qui retrace l'effet marquant de la geste de ces deux combattants qui exaltent leurs souvenirs par un discours. Ce n'est pas vraiment un récit, ce n'est pas vraiment une prière, ce n'est pas une méditation sur la mort, mais c'est un discours poétique qui dit la plainte de la perte, la sidération que provoque toute disparition, et qui construit la place de ceux qui sont morts dans la mémoire de celles et ceux qui restent et doivent maintenant vivre sans eux. Sans ces mots qui reconstruisent l'existence mémorielle de Saül et de Jonathan, ceux qui restent ne pourraient rassembler les bribes de vie des deux héros. La complainte de David donne un espace où ce qui est perdu peut, grâce aux mots, être rassemblé, retrouvé, gardé et transformé en éternité. Pour tous, Saül et Jonathan seront désormais des héros, comme le dit David, mais surtout leur vie sera celle qui a compté pour David, et ce lien ne peut plus être détruit. La parole a ce pouvoir de passer au-delà de la mort et de faire exister de nouveau, selon de nouvelles modalités symboliques, les êtres qui ont quitté cette vie. Comme dans une décantation, seul ce qui fait sens, seul ce qui fait lien est gardé de la vie du défunt, et c'est cette vie suscitée à nouveau qui peut commencer. La résurrection n'est pas affaire de tombeau et de mort, mais de tombeau et de mort racontés, dit poétiquement, imaginé hors du temps pour commencer une autre vie, celle qui existe dans la mémoire et dans le présent des vivants. La résurrection n'a lieu que lorsque les mots ont pu donner l'espace nécessaire au souvenir pour se déployer vivant dans la parole des vivants. Alors, si nous prions pour les vivants et non pour les morts, il n'en reste pas moins que nos églises doivent continuer à être ces espaces où l'on peut appréhender la mort et la séparation grâce aux mots, grâce au silence partagé et grâce à la musique méditée, car elle est souvent d'un énorme secours. Nous sommes des espaces de poésie où le deuil peut trouver ses mots. Nous sommes des passeurs d'histoires humaines, des porteurs de mots et donc des porteurs de vie. Socialement, il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'on peut prendre le temps de parler de la mort et de la perte des êtres qui nous sont chers. C'est la mission des églises, car elles sont nées d'un deuil. C'est leur mission depuis qu'un homme est mort sur une croix et que ses disciples ont commencé à raconter le récit de sa vie, précisément parce qu'il n'était plus là. Ils ont écrit la poésie des liens d'amitié et d'affection qui les unissaient à lui, et ils ont raconté le chemin que sa mort même ouvrait dans la résurrection. J'oserais dire que les mots dits ici, dans ce temple, pour parler des vivants et des morts et des liens éternels qui les unissent, sont les évangiles de chaque vie, honorés par la parole de ces survivants. Ces paroles annoncent un horizon pour celles et ceux qui sont dans le deuil. Alors souhaitons que dans chaque deuil puisse retentir une telle parole de vie. Amen.
Thank you.
Je vous invite à chanter ensemble le psaume 42, les strophes 1, 2 et 3, comme un cerf altéré brame. Je vous invite à vous asseoir et je vais maintenant inviter Victoire du Conseil presbytéral à venir partager avec nous les annonces de ce matin. Merci Victoire. Ah. Alors c'est le gros bouton carré en haut.
Là, ah oui, là c'est bon. Merci Béatrice. Et merci pour ta prédication et tes mots. Donc quelques annonces pour cette semaine. On te retrouve Béatrice ce mardi 5 novembre pour trois activités. Tout d'abord le culte d'intercession avec Sainte-Seine au Temple de 12h30 à 1h15. Et puis ensuite, un déjeuner convivial vous est proposé dans la maison presbytérale avant de vous proposer un partage biblique qui est cette année sur donc, le thème des villes réelles et fictives de la Bible. Et cette fois-ci, vous vous retrouvez pour discuter du thème des textes hors la ville, c'est ça ?
Ce qu'il y a autour des villes, puisque c'était souvent des villes fortifiées, et donc qu'est-ce qu'on met à l'extérieur de la ville, qu'est-ce qu'on garde loin de la ville, ou qu'est-ce qu'on met dedans, voilà.
Également, le 5 novembre, nous tenions à vous à vous partager un événement qui a lieu non pas au temple de l'Oratoire du Louvre, mais au foyer de l'âme. C'est une conversation avec le pasteur Laurent Gagnebin qui est proposée sur un de ses derniers ouvrages, La liberté de la foi, ouvrage qui est disponible à la librairie. Pour le reste des activités dans la semaine, vous retrouverez le groupe protestant des artistes lundi, demain, et puis les cours de grec biblique avec Anne Velty. Pour dimanche prochain, il y aura une séance d'initiation au protestantisme ou de caté pour adultes sur le thème de la lecture, de la critique et de l'interprétation de la Bible. Donc vous êtes tous et tous conviés à retrouver Béatrice à l'issue du culte. Je crois que c'est tout pour les annonces. Alors je ne sais pas si une scout est venue me voir pour des annonces, mais je ne sais pas si elle est repartie. À Alessandro du conseil est parti voir si elle est là pour vous partager une annonce. Elle était là tout à l'heure, oui. Ah non. Bon. Alors peut-être que ça sera pour dimanche prochain. Voilà. Suspense. Et puis OK, très bien. Et donc comme à chaque fois ici, le don est joyeux à l'oratoire et donc c'est le temps de la collecte. Je vous invite à donner pour que la parole proposée ici puisse continuer d'être dite et entendue. Merci à toutes et tous pour vos dons et puis je vous souhaite un très joyeux dimanche.
Je vous invite à la prière avant d'entendre le nom de toutes ces personnes dont nous avons, pour lesquelles nous avons fait mémoire ici même et pour lesquelles l'Évangile a été annoncé, la bonne nouvelle de la vie et de la résurrection. Éternel, bénis toutes les familles en deuil, les hommes et les femmes qui sont dans cette absence, cette perte et la difficulté de vivre cette situation nouvelle. Éternel, bénis chacun et inspire à chacun de nous la présence et la disponibilité pour toutes celles et ceux qui se trouvent dans cette solitude particulière. Permet que nous soyons capables d'écouter et de susciter à nouveau le récit de vie toujours tellement singulière et toujours passionnante. Éternel, permet que nous soyons là les uns pour les autres quand le deuil paraît. Et dans ta vie éternelle, nous faisons mémoire aujourd'hui de toutes ces personnes qui sont décédées depuis le mois de novembre 2023. 24 novembre 2023, Françoise Potier. Le 7 décembre 2023, Alain Brastad. Le 10 décembre 2023, Philippe Billet. Le 14 décembre 2023, André Horn. Le 24 décembre 2023, Janine Fournier, née Chapal. Le 3 janvier 2024, Gérard Mugler. Le 20 janvier 2024, François Robert. Le 25 janvier 2024, Frédéric Edelman. Le 20 février 2024, Noémie Chaillet-Piquant. Le 21 février 2024, Gérard Jenkins. Le 23 février 2024, Claude Montamat, dit Montana. Le 24 février 2024, Charles Sirven Viennot. Le 3 mars 2024, Marcel Gall. Le 16 mars 2024, Françoise Simon, née Blavier. Le 21 mars 2024, Heather Petitjean, née Jordan. Le 10 mai 2024, David Marguet. Le 25 juin 2024, Fleurette Razaouza Namavo. Le 19 mai 2024, André Kleitz. Le 5 juillet 2024, Edith Weber. Le 2 août 2024, Sylvain Baron. Le 6 août 2024, Bella Farago. Le 29 août 2024, Janine Cyr. Le 1er octobre 2024, Jean-Claude Réveillot. Le 13 octobre 2024, Yuri Jakubowski. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, C'est une route vivante qui est devant nous toutes et tous, un chemin de vie que Dieu nous donne jour après jour, avec dans nos mémoires toutes celles et ceux qui ont participé à ce que nous sommes, en ayant partagé un peu de leur vie avec nous. Alors ne les oublions pas, et surtout continuons à vivre avec ce qu'ils nous ont apporté, et nous-mêmes soyons toujours attentifs à ce que nous apportons dans nos propres vies. Soyons éternellement liés les uns aux autres par des liens d'amour que Dieu nous commande dans son Écriture, et que nous soyons toujours attentifs à respecter infiniment toute vie sur cette terre. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde dans sa grâce. Amen.